jusqu'à ce que le monde devienne un vide inhabité, il y aura une image dans le miroir.
Henry James, La roulette, notre esprit en mouvement. Le secret, par Philippe Solers.
Ce qui compose chaque ligne, choisit chaque mot, met un point sur tous les i, trace toutes les virgules. J'entrevois un petit sujet dans l'idée que voici, à propos de l'auteur de certains ouvrages dont on sait qu'il professe et, au besoin, proclame aux rares êtres avec qui il communique que ses écrits contiennent un secret très beau et précieux, très intéressant et rémunérateur, une intention cachée, discernable à ceux qui les lisent avec l'intelligence voulue, qui les pénètrent en quelque sorte et apportent à leur déchiffrement un certain sens perceptif.
Ce texte dont parle James dans ses carnets en 1896, ce texte où il se donne comme projet d'occuper la situation d'un narrateur frustré et déçu face à l'image incompréhensible que représente pour lui un romancier qu'il est lui-même d'une autre manière et qui s'appellera dans la fiction Hugh Vereker. Et rien ne nous empêche de voir dans ce nom l'écho synthétique de l'expression anglaise « Vereker », attention extrême. Ce texte central, parmi ses livres, dont il assure le seuil et l'explication suspendue à travers la mise en scène compliquée de la narration, ce texte où il est plus manifeste que jamais que les êtres vivants évoqués par une écriture sont des modifications et des rôles de l'absence pleine qui les écrit, ou plutôt, comme le précise James par ailleurs, des réflecteurs de cette absence active et insaisissable. Ce texte existe et nous pouvons le lire sous le titre « The figure in the carpet », c'est-à-dire l'image ou encore le motif dans le tapis. Centrale, cette nouvelle n'est à plus d'un titre. Entre les études proprement critiques de James, qui prennent la forme, on le sait, de longues préfaces à ses romans, préfaces qui ont de leur côté comme origine embryonnaire le creuset biographique et visionnaire des carnets. Entre ces études et le grand ensemble enchevêtré de ses livres, lesquels composent la trame et le tapis de sa vie, à mi-chemin donc, entre ces deux écritures qui paraissent s'exclure mutuellement, prend place le texte bref, la nouvelle, qui les rassemble et les accomplit dans une figure médiatrice, celle de l'énigme. Si le roman expose sans analyser, si la critique analyse sans exposer, la nouvelle sera le nœud où analyse et exposition se composeront en un mixte de fiction et d'explication, c'est-à-dire qu'en elle, l'algèbre critique sera à tout moment sensible sous la fiction qui par ailleurs la révèle. James, pendant toute sa vie, a rappelé avec force la seule importance du texte, c'est-à-dire précisément, dans notre culture, de l'organisme le plus négligé qui soit, en raison, dit-il, de notre méfiance collective si marquée à l'égard de tout ce qui se rapproche d'un jugement serré et analytique. Il n'y a pas de doute que James ressentait très violemment, dans la société où il vivait et où, par bien des côtés, nous vivons encore, l'absence de toute lecture réelle et, par conséquent, l'annulation pratique de l'écriture comme de la publication et de la réception de l'écrit. Cette méfiance collective, cette répugnance, ce tabou, nous avons donc encore aujourd'hui à les dénoncer, même si, à plus d'un signe annonciateur, nous pouvons voir monter vers nous ce corps textuel en dehors duquel il n'est pas de point de vue rigoureux sur la littérature. Déjà, vers 1920, les formalistes russes s'attacher à reconnaître les fonctions pratiques de cette question, de plus en plus urgente pour notre pensée et que nous appelons littérature. C'est ainsi que Bernard Eichenbaum écrit dans son essai sur la théorie de la prose. La nouvelle rappelle le problème qui consiste à poser une équation à une inconnue. Le roman est un problème à règles diverses que l'on résout à l'aide d'équations à plusieurs inconnues, les constructions intermédiaires étant plus importantes que la réponse finale. La nouvelle est une énigme, le roman correspond à la charade ou au rébus. On construit la nouvelle sur la base d'une contradiction, d'un manque de coïncidence, d'une erreur, d'un contraste, etc. Mais cela ne suffit pas. Tout dans la nouvelle tend vers la conclusion. D'autre part, Bernard Tomaszewski, dans sa thématique, note que le retard de l'exposition est habituellement introduit comme un ensemble complexe de secrets. Sont possibles les combinaisons suivantes. Le lecteur sait, les personnages ne savent pas. Une partie des personnages sait, une autre ne sait pas. Le lecteur et une partie des personnages ne savent pas. Personne ne sait, la vérité est découverte par hasard. Les personnages savent, le lecteur ne sait pas. La nouvelle, comme énigme, est donc une figure partielle qui se détache sur le fond romanesque et critique. C'est elle qui manifeste le plus concrètement l'imbrication des versants créateurs et réflexifs du langage. C'est donc elle, et James, de même que Poe, le comprend admirablement, que la littérature elle-même pourra désigner, par un redoublement qui lui appartient en propre, son secret comme tel. Autrement dit, le secret que porte constitutivement en elle la littérature pourra devenir figure du secret dans le texte traité au plus près de sa structure formelle. Et en effet, que propose explicitement l'image dans le tapis ? Une énigme capitale, telle que la vie et la mort des individus qui l'approchent semblent en dépendre. Un secret littéraire, sans doute, mais fondamental, qui justifie l'existence des individus et de l'univers. Un amas d'or et de pierreries, écrit James. Cependant, il s'agit d'une énigme sans solution, d'un secret qui reste inaccessible au narrateur fictif comme au lecteur réel, alors qu'il est en possession, à l'intérieur du récit, du romancier et du couple qu'il a découvert. Nous avons donc l'ensemble suivant. X écrit le secret et meurt. A, le narrateur, cherche le secret en vain, vit tout en ne vivant pas, est réduit au rôle de spectateur, et c'est également nous en tant que lecteur. B découvre le secret, se marie avec C, lui transmet le secret, ils meurent l'un après l'autre sans avoir parlé. A' a épousé C après la mort de B, mais apprend seulement par A, après la mort de C, qu'il y a un secret et se trouve dès lors dans la même position que lui et que nous, c'est-à-dire, dit James, victime d'un désir inapaisé. Le cercle se boucle lorsque la situation initiale est reformée, cette situation initiale que l'on peut résumer par « il y a un secret à chercher dans ce qui est écrit », et en même temps modifiée, puisque le secret littéraire est désormais un secret d'amour. La femme le tient de son premier mari, mais ne l'a pas transmis au second, ainsi que l'avait d'ailleurs suggéré X à A. Par une série de transformations intérieures, mais nous sentons bien en lisant que cette transformation continue affecte une figure unique, dont ce qu'il est convenu d'appeler les personnages ne sont que les reflets et les réflecteurs, le texte nous indique très précisément que dans le tissu même, fascinant de la narration, fascinant puisqu'il produit ces figures fondamentales que sont le langage, la sexualité et la mort, se trouve le secret dont le mot « secret » n'est que la figure. En somme, tout se passe comme s'il y avait et n'y avait pas de secret. Certes, celui-ci pourrait être révélé à tout moment, dans le texte lui-même, mais d'autre part, le récit n'existe que dans la mesure où il n'y a pas de révélation. Autrement dit, nous devons comprendre que X plus A plus B plus C plus A', tous ces personnages, c'est-à-dire la somme de ceux qui savent et de ceux qui ne savent pas, constitue le secret lui-même, c'est-à-dire non pas le secret d'un autre texte, du texte dont il est question dans le texte, mais du texte que nous avons sous les yeux et qui, par conséquent, nous comprend aussi comme réflecteur. Le secret du texte, de tout texte, est donc de changer son lecteur en figure du secret. Finalement, la solution du problème qui nous est exposé n'est pas autre chose que l'exposition même de ce problème. Et la résolution n'intervient que lorsque, nous reconnaissant comme cette figure, nous passons ainsi dans le tapis du texte pour en devenir l'image, signant ainsi, de notre mort comme lecteur, l'écriture elle-même comme irréductibilité simultanée de la figure et du fond. Tout l'ensemble de mes efforts lucides, dit Verrecker, n'est pas autre chose. Chacune de mes pages et de mes lignes, chacun de mes mots. Ce qu'il y a à trouver est aussi concret que l'oiseau dans la cage, que l'appât de l'hameçon, que le bout de fromage dans la souricière. C'est ce qui compose chaque ligne, choisit chaque mot, met un point sur tous les « i », trace toutes les virgules. S'agit-il pour autant, demande naïvement le narrateur, d'un sens ésotérique? Mais, répond Verrecker impatienté, il n'y a que les journaux pour parler de sens ésotérique. Une telle expression, grossièrement métaphorique, ne veut strictement rien dire. Par le bavardage dont elle est l'indice, et ainsi en est-il de tout ce qui veut réduire le texte à un sens transcendant, à une vérité extérieure et dissiper ses propres mots, elle prouve que l'on est aussi loin que possible du secret. Celui-ci, d'autre part, s'il indique une littéralité absolue, n'est pas pour autant une pure et simple tautologie. En fait, il implique plutôt une transformation simultanée du lecteur et du texte, cette transformation dépendant seulement de nous. Il n'y a pas de sens en dehors de nous. L'erreur du narrateur impuissant, du lecteur dans sa généralité, c'est de voir dans le secret une chose parmi d'autres, de même qu'il voit en ce qui écrit l'écrivain, et non ce qui est à l'œuvre dans l'écrivain, des livres, leurs personnages, leur histoire, et non ce qui est écrit dans les livres. Il confond incessamment fiction et réalité, et, faisant de la fiction une réalité, échappe à la réalité de la fiction comme telle. Au contraire, B, le lecteur qui découvre l'énigme du texte, c'est-à-dire, puisqu'on parle du mot de l'énigme, celui qui a pris le texte au mot, traite la question, dit James, en joueur d'échecs. Il voyage dans ce but, associe l'union avec une femme à ce but, vit dans ce but, de même que l'auteur n'existe que dans ce but. On pourrait dire par conséquent que le lecteur de l'énigme passe dans l'écriture à condition de l'écrire, c'est-à-dire d'y sacrifier sa vie, cette vie désormais vécue de toutes parts, comme dit James dans ses carnets, et que porte, sans doute, selon une autre de ses expressions, le fluide sacré de la fiction. C'est la question elle-même qui a bondi sur lui tout d'un coup, comme une tigresse hors de la jungle, est-il dit du lecteur de l'énigme. James a écrit, nous le savons, un autre texte, La bête dans la jungle, où, là encore, les figures humaines de l'écriture n'ont d'autre rapport que celui énigmatique qu'exige d'eux un dehors menaçant, un fond sur lequel elles se détachent provisoirement le temps de la narration avant de s'anéantir. L'anéantissement retardé, les ruses qu'emploie le secret pour rester suspendu et en vie, l'attente du bondissement de la bête, du secret caché, de la mort dissimulée, du souvenir oublié, constitue le récit lui-même, et là est en effet le sujet de la littérature, ce sujet qui est à la fois celui qui sait et qui ne sait pas, qui est mort et qui cependant continue de vivre, un fantôme, mais aussi le seul personnage réel. Nous pouvons donc penser qu'il y a un autre côté du texte, mais que cet autre côté recouvre ce côté-ci, que l'envers et l'endroit ici coïncident indirectement dans le jeu dont, écrit James dans l'image dans le tapis, l'enjeu était d'une nature particulière et la roulette, notre esprit en mouvement. L'image dans le tapis, la bête dans la jungle, la bête dans le tapis, l'image dans la jungle, ou encore la mort dans le monde, le sens dans le texte, le sens dans le monde, la mort dans le texte.
C'était La roulette, notre esprit en mouvement, Le secret, par Philippe Solers.